mission, comprendre, prévenir et agir sur les addictions. Trouver de l'aide, un soutien, des conseils autour des addictions nécessite une démarche personnelle souvent dure à enclencher. L'addiction rime souvent avec isolement et repli sur soi. Santé publique France, l'agence nationale de santé publique, a pour mission d'améliorer et de protéger la santé des populations. Et dans ses différents services, Santé publique France déploie des sites internet autour des addictions. Drogue info service, tabac info service, alcool info service, joueur info service, avec à chaque fois un numéro de téléphone dédié. Alors pour en parler aujourd'hui sur l'antenne de Radio Ondaine, nous recevons Jérôme Chauvin de la direction de l'aide et de la diffusion au public à Santé Publique France, responsable notamment du pôle d'addictologie de Toulouse. Bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Ondaine. Alors effectivement, hein, on parle de cette entité, cette grosse entité, hein, Santé Publique France, dont vous faites partie. Qu'est-ce que c'est, en quelques mots ?
Bonjour. Alors, Santé Publique France, c'est une agence qui a été créée en 2016 par l'État, donc sous l'égide du ministère de la Santé, et qui regroupe un certain nombre de directions qui sont chargées d'études, d'apporter un regard épidémiologique sur la santé en France, et d'apporter des réponses aussi concrètes à des crises sanitaires, par exemple. Mmh. Dans cette agence, il y a parmi ces directions notre direction qui s'occupe de l'aide à distance, qui est une direction donc qui a intégré dès 2016 le numéro qu'on appelait autrefois ADALIS, Addiction Drogue Alcool Infoservice, qui était un service à part, qui était géré indirectement par le ministère de la Santé avant, et qui a été intégré à Santé Publique France. Et donc dans ce service, il y a plusieurs lignes d'écoute et plusieurs sites internet qui s'adressent donc au public. Il y a Drogue Info Service, qui est la ligne historique, celle qui a été créée en premier en 1990 par l'État. Le service s'appelait au départ comme ça, il s'appelait Drogue Info Service, comme le nom de la ligne. Et puis quelques années plus tard, ont été rajoutés Alcool Info Service, Écoute Cannabis, encore un peu plus tard, Joueur Info Service. Et puis les sites internet ont été créés sous les mêmes noms. Et puis bien plus tard, donc, nous avons été intégrés à Santé Publique France.
Ok. Alors qu'est-ce que finalement on entend quand on parle à votre niveau d'addiction ? C'est toujours bien de rappeler peut-être ça aussi à nos auditeurs. Une addiction, c'est quoi ?
Alors une addiction, c'est le fait de tout simplement ne pas réussir à s'abstenir de ne pas consommer. Ou pour le dire autrement, ne pas réussir à arrêter de consommer quand on consomme un produit. Ça concerne bien sûr les addictions que nous on appelle avec substance, c'est-à-dire des produits psychotropes, donc les drogues illicites bien sûr, mais aussi l'alcool. Mmh. Et puis ça concerne aussi parfois des addictions qu'on appelle sans substance, qui peuvent être donc les jeux d'argent. Et puis il y a aussi bien sûr beaucoup d'autres addictions, l'addiction au shopping, l'addiction à la course à pied, l'addiction au travail, et puis les addictions affectives aussi. Tout ça, ça existe. Alors nous, on s'occupe beaucoup moins de ce versant-là. Mmh. Nous, on est vraiment centré sur les drogues illicites, sur l'alcool, les addictions avec substance et aussi sur les jeux d'argent.
Alors, vous avez évoqué cette expression « aide à distance ». Comment vous le définissez ?
L'aide à distance, ça signifie simplement que des personnes peuvent contacter notre service sans se déplacer, à distance, par un téléphone, au moment où ils en ont besoin, donc sans rendez-vous, dans l'état où ils sont, souvent, donc souvent en état de parler, mais parfois ils ont consommé aussi un petit peu, parce que ça peut aussi les aider à parler de consommer. Donc c'est également sur une amplitude d'ouverture horaire qui est très élevée, actuellement de 8h du matin jusqu'à 2h du matin, et c'est tous les jours de l'année, y compris les jours fériés, les vacances, tout le temps.
Alors, qui retrouve-t-on finalement au bout du ligne? Qui sont les personnes qui seront les interlocuteurs finalement de toute autre personne qui fait la démarche d'appeler, de contacter ces numéros-là?
Vous voulez dire chez nous,
hein, chez vous, que, chez vous, bien sûr.
Nous, en tant que salariés. Oui. Ce sont des écoutants, on les appelle des écoutants en addictologie, qui sont formés spécialement en interne par Santé publique France. C'est une formation un peu lourde d'une centaine d'heures qui reprend tout un tas d'éléments techniques qu'il faut connaître en addictologie, par exemple bien connaître les drogues bien sûr, bien connaître la législation des drogues, bien connaître le système de soins qui est proposé en France et dans les DOM-TOM. C'est aussi une formation à comment conduire des entretiens, comment s'y prendre, comment prendre de la distance émotionnelle, comment avoir les bonnes stratégies, comment conseiller, comment informer de façon efficace. C'est aussi bien sûr une formation sur la culture du service, l'éthique, à suivre, le cadre de ce qu'on attend. Tous ces gens qui sont écoutants, ils sont parfois qu'écoutants, mais parfois pas que. Ils ont souvent d'autres formations. Ce sont des gens qui viennent des sciences humaines, souvent, ou du social. Il y a des psychologues, des éducateurs, des travailleurs sociaux, des assistantes sociales, parfois du corps médical aussi, certains. On a quelques infirmières aussi qui travaillent chez nous. Ils viennent pas à ce titre-là. Ils sont pas chez nous en tant que psychologues ou en tant qu'éducateurs. Ils sont en tant qu'écoutants. Mais ils ont parfois des formations parallèles et certains continuent de travailler aussi à côté. Certains ont par exemple un cabinet de psychologue et puis sont chez nous en tant qu'écoutants. Mmh. Ou travaillent dans une institution et sont chez nous en tant qu'écoutants.
Alors si l'on parle des personnes qui appellent finalement, c'est ouvert à tous, hein, on est d'accord, hein, pas de restriction d'âge, chaque personne est accueillie téléphoniquement. Cette démarche-là, à votre sens, et chaque cas est différent, hein, bien sûr, mais elle s'enclenche comment? Est-ce que vous constatez finalement des périodes de l'année qui seraient, on va dire, plus favorables à ces questionnements autour des addictions? Expliquez-nous un peu, voilà, les personnes qui font appel, quels sont leurs profils? J'aime pas ce terme-là, mais pour qu'on comprenne un petit peu, parce que j'imagine que appeler aussi ce côté anonyme est important dans une première démarche.
Bon, il y a autant de profils que de personnes, forcément. Effectivement, vous l'avez dit, c'est tous les âges, beaucoup d'adultes, mais aussi des jeunes, parfois des très jeunes, plus rarement, mais ça arrive, parfois des enfants. Et il y a aussi des gens très âgés, sans limite. Donc ça, c'est déjà tous les âges. Comment ça s'enclenche? Déjà, il faut comprendre qu'il y a à peu près 60% des gens qui nous appellent qui sont des usagers eux-mêmes de produits psychotropes. Donc, une des raisons d'appeler, c'est je suis consommateur, par exemple, d'un produit, j'ai besoin d'en parler. Et j'ai besoin d'en parler pour des raisons qui me sont personnelles. Par exemple, ça peut être parce que, effectivement, je voudrais réduire ma consommation, je ne sais pas comment m'y prendre, je voudrais arrêter, ou je voudrais trouver une aide près de chez moi. Ou bien je veux parler de tout ce qu'il y a, tout ce qui fonctionne avec ma consommation, pourquoi je consomme, pourquoi je vais pas bien. Mais ça peut être aussi des questions sur la législation. Mon fils est en garde à vue, comment je vais faire pour qu'est-ce qui va lui arriver, qu'est-ce qu'il risque, par exemple. Des questions dépistage. J'ai été contrôlé sur le bord de la route. Est-ce qu'on va me rendre mon permis de conduire bientôt? Qu'est-ce que je risque également en tant que consommateur? Et puis aussi, il y a beaucoup de gens qui appellent avec un levier de mal-être. Mmh. Je vais mal, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Et la porte d'entrée est souvent la consommation d'un produit psychotrope. Alors le mal-être, il est fait de tout ce qui anime les êtres humains, les conflits familiaux, beaucoup, la violence, les idées noires, les idées suicidaires. Tout un tas de choses comme ça qui sont parfois reliées au comportement addictif. Et puis, il y a donc 60% qui sont des usagers et il y a 40% qui sont des gens de l'entourage. Mmh. Entourage d'usagers, donc des gens qui sont de la famille ou des amis ou des collègues parfois. et qui ont envie qui se demandent mais comment aider, comment faire, comment parler avec cette personne, comment s'y prendre. Parfois, ces gens sont démunis, ils sont parfois impuissants, ils ne savent pas bien comment faire. Et puis, il y a parfois des conflits dans la famille très importants. Ce qu'il faut aussi repérer, c'est que même si on est un service d'addictologie, le rapport à la consommation, il est très large. C'est-à-dire que les gens qui nous appellent, ils ont parfois un vrai problème d'addiction, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de consommer. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui peuvent s'empêcher de consommer et qui ont pourtant un rapport problématique avec le produit. Le produit, ce n'est pas toujours une addiction, le problème. Par exemple, il y a des gens qui vont consommer tous les week-ends. On peut dire qu'ils réussissent à arrêter la semaine. Au sens strict, ils n'ont pas une addiction. Pourtant, ils ne peuvent pas s'en empêcher le week-end pour faire la fête, pour être comme les autres, parce qu'ils manquent de confiance en eux, etc. Et donc, avec des conséquences qui sont liées à cette consommation ponctuelle, même si dans la semaine, ils n'ont pas de problème, par exemple. Donc, c'est beaucoup plus large. Il y a même des gens qui consomment que quelques fois dans l'année, mais c'est un problème pour eux. Ça peut être un problème moral, mais ça peut être aussi un problème de conséquences. J'ai consommé, je risque d'avoir un accident, ou j'ai eu un accident de la route, ou je me suis battu avec telle personne parce que j'étais désinhibé par l'alcool. C'est tout un tas de situations qu'on retrouve qui sont beaucoup plus larges que l'addiction proprement dite.
Alors le rôle d'écoutant est un rôle ponctuel, hein. On reçoit un appel, on écoute la personne en détresse qui se questionne. Et puis après, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a, j'imagine que oui, mais une série de diagnostics à faire et pourquoi pas de guider ces personnes-là vers des services d'une manière un peu plus locale, de trouver une aide près de chez soi. Vous devez avoir, j'imagine, une vision un peu du territoire avec tous les services et vous pouvez inviter ces personnes à prendre contact avec ces services, d'autres services, un peu plus de proximité.
Oui, c'est ça, ça fait partie, c'est une des missions des écoutants, c'est effectivement d'orienter vers des services de proximité. Les écoutants disposent d'un annuaire en addictologie qui est mis à jour sans cesse par nos équipes, qui fait qu'ils ont des informations précises. On peut trouver, quelqu'un appelle par exemple de Brest, et bien on peut trouver quels sont les services adaptés pour lui, près de chez lui, à Annecy, à Biarritz, n'importe où, et aussi dans les territoires d'outre-mer. Donc ça fait partie de ces missions de pouvoir orienter finement sur tout le dispositif. Le dispositif, il est un peu complexe. Il y a différents types d'aides. Il y en a qui sont des aides en hôpital, par exemple, d'autres qui sont hors hôpital. Il y a des aides qui sont plutôt des suivis, d'autres moins. Il y a des services de prévention aussi, c'est encore autre chose. Donc les écoutants doivent les connaître et orienter comme ça les personnes en fonction de leurs besoins. Les orientations s'adressent aux usagers, mais aussi parfois à l'entourage. Puisque beaucoup de ces services, pratiquement tous, reçoivent souvent l'entourage aussi. Ça, c'est une mission, c'est l'orientation. Les écoutants ne font pas que ça, il y a d'autres missions. Il y a bien sûr l'information, c'est une part importante. Informer le public sur les effets des produits, leurs risques, bien sûr. Toutes ces informations sont disponibles aussi dans les sites Internet. Les personnes peuvent faire le choix donc de regarder sur Internet ou de nous appeler. Donc bien connaître les drogues, toutes les drogues. Là pour ça, les écoutants disposent d'outils documentaires qui sont sans cesse pareil, mis à jour par un pôle information qui construit des informations spécialement pour eux, pour qu'elles soient disponibles rapidement, pour qu'ils puissent informer rapidement les personnes qui nous appellent. Après, il y a deux autres missions importantes, c'est le soutien, bien sûr, puisque on a parlé du mal-être, il est très souvent présent dans les appels. Donc les gens ont besoin d'être soutenus. Et donc c'est une des missions du service. Et la dernière mission, c'est le conseil. Le conseil, c'est une mission un peu complexe pour les écoutants, puisque souvent, les personnes qui appellent demandent des conseils un peu précis sur des marches à suivre, parfois des solutions, des choses qui sont parfois même avec un espoir de baguette magique. Et ça marche malheureusement pas comme ça. Et donc souvent, les écoutants transforment cette demande de conseil en un espace de réflexion pour permettre aux personnes de les aider à prendre eux-mêmes leurs décisions. Et donc c'est un petit peu de cette façon qu'on travaille. Et puis il y a l'écoute, bien sûr. L'écoute, c'est pas une mission proprement dite, c'est un outil de travail. C'est ce qui nous sert, c'est ce qui sert aux écoutants pour pouvoir atteindre toutes les missions que je viens de dire. Bien écouter, bien se représenter ce que la personne demande, sans se faire des idées, ne pas penser à sa place ce qui est bon pour elle, et puis du coup pouvoir l'orienter au mieux, la soutenir au mieux, l'informer au mieux.
Alors tous ces services-là, vous ne reprenez jamais contact avec la personne. C'est un appel ponctuel, ce n'est pas un suivi, c'est simplement un conseil donné à un moment précis.
C'est ça. Et ce qu'il faut, donc c'est assez complémentaire de ce que font les autres services qui reçoivent eux en présentiel et proposent un suivi qu'effectivement nous on ne propose pas. C'est un appel ponctuel. Ça n'empêche pas bien sûr des personnes de rappeler de temps en temps. Ça sera un nouvel appel ponctuel et la personne aura un autre écoutant au bout du fil très probablement. Il n'est pas possible de reparler avec la même personne. En tout cas, ça peut être le hasard, mais on ne peut pas l'organiser comme ça. Et il faut comprendre que dans ces appels, il se passe déjà quelque chose. Notre service, ce n'est pas un endroit où les personnes viennent simplement chercher une orientation. Il y a déjà parfois une réflexion, parfois une amorce simplement de réflexion, un moment où les personnes viennent déposer leur souffrance et puis commencer à réfléchir sur leurs difficultés. Et ça prépare déjà leurs entretiens qu'ils auront parfois ensuite dans des services présentiels. Et c'est aussi important de repérer que notre service est complémentaire, mais parfois, il y a des gens qui sont aussi suivis dans des services présentiels et qui nous appellent quand même. Parce que c'est autre chose, c'est une autre façon, c'est au moment où ils en ont besoin, c'est dans l'état où ils sont, c'est anonyme aussi, ça les aide à parler. Et puis il y a des gens qui ne veulent pas consulter en présentiel. C'est difficile pour eux, et pour eux, cet espace à distance est plus confortable.
Voilà, en tout cas, on retrouve tous ces numéros de téléphone. Alors, en se rendant sur Internet, on rappelle un peu donc sur le site de Santé Publique France et on a un bandeau déroulant qui peut nous amener sur les différents sites dédiés comme drogue, infoservice, tabac, infoservice, alcool, infoservice, joueur, infoservice.
Et l'on retrouve. On peut même les trouver, je vous interromps, on peut même les trouver directement en tapant drogue, infoservice. Ce sont des sites également autonomes que l'on trouve directement sur. En tapant sur Google, ils apparaissent tout de suite.
Voilà, et sur ces sites-là, on a beaucoup de ressources. Hein. On peut aussi avoir quelques réponses à ces interrogations en se documentant là-dessus.
Tout à fait.
Et puis après, la démarche enclenchée, si on a besoin, on appelle et on tombe sur quelqu'un.
C'est ça. Et puis, donc, je peux ajouter donc, du coup, que les personnes ont différentes modalités de choix pour nous contacter à distance. Ils peuvent bien sûr regarder les sites et déjà se documenter. Il y a déjà beaucoup d'informations. En tout cas, la philosophie de nos réponses apparaît déjà bien sur nos sites. Ils peuvent nous appeler effectivement pour avoir un échange, mais ils peuvent aussi nous contacter par chat. Par chat, donc c'est un échange, un entretien en dictologie de la même façon, mais par écrit. Et puis, ils peuvent aussi poser une question. On appelle ça le module question-réponse. Ils peuvent poser une question sur le site, et là, un écoutant va répondre donc de façon différée, sans échange, une question, une réponse. Donc c'est un autre format. Et puis il y a aussi les forums. Les forums, ce sont des espaces de conversation entre internautes qui sont modérés par des personnes de nos équipes, qui sont modérés a priori. Tous les posts sont visionnés et sont publiés ensuite après avoir été validés. Et donc c'est une aide aussi. Une aide aussi pour les internautes qui peuvent échanger entre eux, s'aider entre eux, s'entraider.
Et d'une manière totalement pragmatique, lorsqu'on appelle, est-ce qu'il y a un temps d'attente? Est-ce qu'il faut réitérer l'appel? Est-ce que vous efforcez aussi d'expliquer que, il faut trouver un écoutant disponible? Voilà, quelle est la moyenne du temps d'attente pour avoir quelqu'un avec qui échanger?
Il y a, on ne tombe pas directement, effectivement, quand on appelle sur un écoutant. On tombe d'abord sur une ligne de filtrage, qui sont des personnes qui vont passer aux écoutants l'appel, après avoir vérifié qu'ils ont bien une demande en addictologie, puisque c'est une spécificité de nos numéros, mais de tous les numéros d'aide à distance qui sont gratuits, c'est de générer aussi des appels qu'on appelle périphériques, c'est-à-dire des blagues, des scénarios, des gens qui sont parfois un peu agressifs. Et donc, tout c'est pour faciliter le travail des écoutants ensuite, il y a une ligne de filtrage qui va uniquement faire passer aux écoutants les appels qui les concernent. Et ensuite, ensuite les personnes ont un petit temps d'attente, ils sont sur un répondeur et ils accèdent à un écoutant. Et là, effectivement, ça peut être immédiat, en quelques minutes. Il peut y avoir un temps d'attente un peu plus long, puisque notre service est victime quand même un peu de son succès, puisqu'il y a beaucoup de sollicitations et les écoutants sont parfois un petit peu débordés. Donc il faut attendre parfois un peu. Et puis il faut attendre aussi pour une autre raison, c'est que nous ne calibrons pas le temps de conversation, le temps d'entretien. Okay. Nous ne disons pas aux écoutants, tu n'as que 15 minutes pour répondre.
On prend le temps de...
Nous prenons le temps que les gens ont besoin. Ça veut dire qu'un entretien, il peut durer 5 minutes, il peut durer 10 minutes, il peut durer une demi-heure, il peut durer 40 minutes.
Voilà, selon la temps, question voilà, posée et l'écoutant, l'écoutant prendra le temps. En tout cas, merci Jérôme Chauvin d'avoir participé à cette émission. J'espère qu'on éclaire un peu nos auditeurs sur tous ces différents services de Santé publique France autour des addictions. Merci à vous d'avoir pris ces quelques minutes.
Merci, moi qui vous remercie. Santé publique France.
Au revoir.
Au revoir.